Cours de critique par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 9 janvier 1992.
Je crois que la dernière fois, ça fait déjà assez longtemps, puisqu'il y a eu tout le temps des vacances. C'était l'analyse de l'appréhension. Et comment cette analyse de l'appréhension nous conduit à poser ce qu'on a appelé l'intellect agent, ce qu'Aristote a appelé l'intellect agent. Un des points sur lesquels saint Thomas a insisté énormément, l'intellect agent est analogue à la critique. Cet agent à la critique est analogue à Dieu, à la métaphysique. Autrement dit, toute la métaphysique, pour saint Thomas, dans la recherche de la vérité, est tendue vers la découverte de l'être premier. On peut dire que toute la philosophie est tendue à la découverte de l'être premier. Si on fait de la philosophie, c'est pour mieux connaître le nous, l'intelligence et Dieu. C'est pour être intelligent pour Dieu. C'est ça la philosophie. Connaître l'homme et en vue de l'homme. Et la critique, c'est de connaître le comment de l'intelligence. Comment notre intelligence chemine-t-elle? Et le comment de l'intelligence s'explique en dernier lieu par ce fait que ce vivant spirituel qui est l'esprit se meut en étant mu. Ce n'est pas contradictoire parce qu'on est au niveau de la vie. L'intellect est mu et il se meut. Tout vivant se meut. C'est le propre du vivant. Tout vivant cherche l'autonomie. Or, l'autonomie parfaite ne peut exister qu'au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, on peut être mu et se mouvoir. Mais c'est très important, ça. Parce que ça permet de comprendre comment, en métaphysique, Dieu peut créer des causes. Vous savez que c'est un gros problème, ça. C'est un gros problème au plan philosophique. Le problème devant lequel Malebranche, disciple de Descartes, n'a pas su répondre. Et Descartes non plus. Causa sui. De Descartes pour Dieu. Et Malebranche dit, il n'y a pas de cause seconde pour mieux proclamer la transcendance de la cause première. On n'arrive pas à comprendre que quelque chose qui est créé peut être source d'opération, source propre d'opération, et donc de liberté. Donc vous voyez, c'est un problème capital. Si vous supprimez l'intellect agent, vous pouvez plus expliquer la liberté. On comprend très bien la position de Sartre, vous savez, à ce point de vue-là. Sartre n'est pas bête. Je crois que c'est un de ceux qui sont les plus pertinents. Il est malin. C'est une intelligence malin. Alors, Sartre veut expliquer la liberté par l'anéantisation. Et nous expliquons la liberté par l'intellect agent. Il y a là un parallélisme extrêmement intéressant à voir. Que si vous supprimez l'intellect agent, vous supprimez le se movere. Le se movere. Du vivant spirituel. il se meut. Un vivant se meut. Le se meuvere, c'est l'autonomie. L'autonomie du vivant, c'est le se meuvere. Plus vous êtes vivant, plus vous mauvais. C'est la mère qui regarde son gosse, qui commence à trotter. Regardez comme il se meut, comme il est vivant. Un gosse qui ne bouge pas, oh, il se meut. Alors, le se meuvere augmente. Vous avez un passage merveilleux dans saint Thomas. Contra gentiles. Ça, il faut le lire et le relire. Livre 4, chapitre 11. Je crois bien que c'est le chapitre 11. Où saint Thomas montre l'immanence du vivant. Et que plus le vivant est vivant, plus il est immanent. Et au terme, on a Dieu. Et c'est par là qu'il donne l'intelligibilité du mystère de la très sainte Trinité. La seule intelligibilité qu'on peut avoir. Ce vivant parfait se meut, et non seulement il se meut, mais il a un fruit dans l'immanence même de sa vie, le Verbe. Et c'est très beau, ça. C'est un des aspects extrêmement importants dans saint Thomas. On pourrait expliquer tout saint Thomas par ça. Pointe. Alors, le vivant qui se meut, le vivant spirituel se meut. Et pourtant, il reçoit de la réalité sa nourriture. Il se nourrit. Qu'ils ne sont pas sa forme. Et donc, il est réceptif. Il est capable de progresser, de recevoir l'autre. Et il se meut. En recevant l'autre, il est mu. Et en étant mu, il se meut. Oui, c'est au fond, c'est devant ce problème-là que Kant à Calais n'a pas su. Alors il a fait une séparation entre l'aspect transcendantal de la connaissance et l'aspect de l'expérience. C'est un point extrêmement important. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire, vous voyez, réfléchissez sur l'analogie, c'est ce passage, ce parallélisme qu'on peut faire entre les deux. La découverte de l'existence de l'être premier est à la philosophie ce que la découverte de l'intellect agent est à la critique. Le comment, alors, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, la critique c'est le comment de l'intelligence. Ordinairement la psychologie c'est le comment d'affectivité. Dans le dialogue assez longtemps avec des psychanalystes freudiens. Ils étaient très étonnés que je les reprenais toujours au tournant. J'ai dit, parce que ce qui vous manque, c'est la psychologie de l'intelligence. Vous faites une psychologie de l'affectivité. Or, l'affectivité ne peut pas se comprendre sans l'intelligence. Et c'est le comment d'affectivité, la psychologie, la plupart du temps, c'est ça. C'est le comment des passions. Et des psychologies assez courtes, c'est les rapports entre le concupiscible et l'irascible. Alors c'est assez simple. Et ça se ramène très souvent uniquement à ça. C'est le comment. Alors évidemment, c'est toute la complexité du psychologique avec l'imaginaire. Tu vois. Parce que dès que l'imaginaire se mêle au concupiscible et à l'irascible, ça devient extrêmement complexe. Tu vois. Mais au fond, en soi, c'est très simple. Quand le chien a l'os dans sa gueule, il ne vous mord pas. Quand vous lui retirez l'os, il prend un autre beefsteak. Et tout se ramène à ça. Quand le... C'est ce qu'on toujours dans un foyer, pour que le foyer soit tranquille. Servez à votre époux de bons petits repas quand il est très fatigué, il sera de bonne humeur. Si au contraire, vous lui donnez une soupe brûlée, il sera de mauvaise humeur. Et la mauvaise humeur du bureau, et la mauvaise humeur du concupiscible insatisfait, fera qu'il sera très en colère. C'est très élémentaire, vous savez, notre psychologie. Pas croire que la psychologie, c'est très raffiné, c'est très élémentaire, concupiscible irascible. Mais alors, avec l'imaginaire, ça prend une subtilité, mais une fausse subtilité. C'est une fausse subtilité. Parce que l'imaginaire, c'est toujours une fausse subtilité. C'est toujours une espèce de représentation, une espèce d'idéalisation. Alors, on croit que c'est subtil, mais c'est pas subtil. L'imaginaire, en soi, n'est pas intelligent. Alors je ne dis pas qu'il est bête, mais il n'est pas intelligent. C'est suffisant de dire ça. Parce que l'imaginaire, c'est pas l'intelligence. L'intelligence est subtile. Ah oui, la métaphysique, c'est subtil. C'est beaucoup plus subtil, la métaphysique, que la psychologie. Parce qu'on atteint Dieu. Donc on atteint vraiment le spirituel. Tandis qu'en psychologie, vous restez dans le comment humain. Et le comment humain qui n'atteint pas la finalité n'a pas de subtilité. Le comment devient subtil en raison de la finalité. Mais la finalité, seule la philosophie l'atteint. Et il faut bien saisir ça en critique. C'est ça l'intérêt de la critique. C'est que la critique nous donne le comment de la vie d'intelligence. Et le comment de la vie d'intelligence, ah ça c'est subtil. Mais le comment affectif est toujours dépendant de la passion. Toute notre vie affective est dépendante du comment passionnel. Et toute la maîtrise de soi, c'est dépasser les passions. Dépasser le comment du concupiscible, c'est pas commode. Dépasser le comment de l'irascible, c'est encore moins commode. C'est plus facile de dépasser le comment du concupiscible que de dépasser le comment de l'irascible. Si on a un tempérament colérique, évidemment, si on est complètement à plat ventre, si on fait la planche tout le temps, alors à ce moment-là, oui, ça c'est concupiscible pur, il fait la planche. Enfin, comme je te pousse. Tandis que l'irascible veut monter la montagne, et il veut être conquérant. Alors, ça c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Le comment de l'intelligence dépend de l'intelligence, de l'intellect agent. L'intellect agent explique. Tant qu'on le peut, explique comment l'intelligence peut être réceptive et se mouvoir. Elle se meut et elle est réceptive. Et en même temps, pas deux moments différents, en même temps. Et c'est pas contradictoire, parce que c'est le vivant. Voyez, la vie est au-delà de la contradiction. La vie spirituelle, le vivant comme tel, est au-delà de la contradiction. Et on le comprend tout de suite, parce que l'intelligence peut affirmer et nier. Et la contradiction, c'est l'affirmation et la négation à l'égard de la même réalité, sous le même aspect. Or, c'est le vivant qui affirme et qui nie. Donc, il est au-delà. En tant que vivant. Et en tant que vivant, il est au-delà de la contradiction. Mais s'il respecte la contradiction, s'il est intelligent. Et s'il fait passer la vie avant l'intelligence, il supprime la contradiction. Il faut bien saisir ça, parce que ça, c'est Aristote, Hegel. C'est très curieux, hein. On arrive à découvrir par l'intellect agent quelque chose de tout à fait fondamental dans notre vie intellectuelle. On pose l'intellect agent pour expliquer le passage de la représentation à la signification. Le passage de l'image à la forme intentionnelle. J'assimile, je dis blanc. Et blanc a un caractère universel. Et blanc provient du blanc du mur, du blanc de la neige, du blanc du visage, du blanc de la chemise. Chemise blanche. chemise blanche et de la marque. Vous vous représentez la neige blanche, un paysage de neige blanche. Ça fait une carte postale étonnante. Vous représentez ça tout de suite. Vous vous représentez toute leur imagination, c'est de la représentation. C'est pour ça que quand vous êtes dans l'ordre de la représentation, vous êtes dans l'ordre imaginatif. Et vous devez avoir des images qui sont de plus en plus caractéristiques pour attirer, séduire. Et l'intelligence est dans l'ordre de la signification. Alors le passage de la représentation concrète à la signification abstraite. Vous ne pouvez plus représenter la signification. La signification du blanc. Représentez-vous la signification du blanc. Vous parlez de blancheur. Quelle est la signification tout à fait pure du blanc? C'est blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. C'est blanc de blanc. C'est la blancheur. Oui. C'est très curieux. Hein? Ce besoin que nous avons d'abstraire, ce besoin que nous avons de passer du concret à l'abstrait. Et c'est tout le temps comme ça. Toute notre vie intellectuelle est comme ça. Et alors, il y a des langues où l'abstraction passe avant le concret. C'est la différence entre le grec et l'allemand. L'allemand aime énormément toujours les formes abstraites. Et le grec aime toujours les formes concrètes. C'est très intéressant au point de vue philologique. Un signe, c'est pas plus que ça. Mais c'est un signe. Et le français est entre les deux par la logique. C'est une langue très logique, français. Elle a un pied du côté, un pied de l'autre. Et c'est vrai, ça. Les deux tempéraments français, le tempérament abstrait logique, très logique cartésien, et puis celui qui est curieux et qui cherche, et qui est dans le concret. Voyez, parce que la logique permet d'ordonner. Alors, il y a des gens qui sont pour l'ordre. L'italien est toujours du côté concret. Bien plus. Il cherche du côté, non? C'est très curieux, parce que l'élan, forcément, représente toute la vie d'intelligence par le signe. Mais ce qui m'intéresse au point de vue critique, c'est le passage de la représentation à la signification. Comment ça se fait? L'intelligence seule connaît la signification. Alors on passe du concret à l'abstrait. Comment se fait ce passage? C'est l'intelligence elle-même qui le fait. Elle fait sa propre cuisine. Elle a cette capacité de se servir de l'image pour découvrir la signification. Je passe de la représentation à la signification. De l'icône. L'icône, c'est l'image en grec. L'icône à la forme. Eidos, le passage de icône à Eidos, en grec, le passage de la représentation de l'image à la forme intentionnelle qui détermine mon intelligence, la forme intelligible, qui détermine mon intelligence et qui permet à l'intelligence d'assimiler. Je connais la forme, je connais blanc. Et de blanc, je passerai à blancheur pour mieux connaître blanc. Comment se fait ce passage? Par l'intelligence elle-même. Saint Augustin fait appel à l'illumination. C'est Dieu. Alors à ce moment-là, vous ne sauvez plus le c'est mauvais réel. Ça, c'est la faiblesse de Saint Augustin. Et ça se répercute dans toute sa philosophie. Tandis que saint Thomas retourne à Aristote pour découvrir le c'est mauvais ré de l'intelligence. L'intelligence se meut. Et elle se meut en faisant que l'icône devient Eidos. La représentation me permet de découvrir la signification. Ça, c'est un moment très important. Mais vous comprenez bien, je n'ai pas l'expérience de l'intellect agent. Mais j'ai l'expérience de l'assimilation attentionnelle. Je connais blanc. Pas seulement le mot, hein, mais je connais blanc. Je connais blancheur. Je connais ce qui est l'être. Vous voyez, l'être est l'analogue à la blancheur par rapport à ce qui est. Ce qui est, c'est ce que je touche. Ceci est. Et de ceci est, je parle. De la forme infinitive, l'être. Donc, c'est la forme abstraite. L'être est abstrait, un mode abstrait par rapport à ceci est. Alors, il faut bien saisir ce passage de la représentation à la signification. Et c'est l'intelligence qui elle-même œuvre. Mais attention, si je dis ça, c'est donc l'intelligence donne la signification aux choses, l'idéalisme. Il y a une part de vérité. On oublie que l'intelligence est réceptive par rapport à la réalité qui existe avant elle. Et donc la signification, l'intelligence la puise dans la réalité. C'est pas l'intelligence qui l'invente. Et cependant, c'est l'intelligence qui l'exprime. Le chat ne porte pas sur son dos chat. Non. C'est l'intelligence qui dit chat. C'est très curieux. Et pourquoi l'intelligence dit chat? C'est parce que ça permet, vous comprenez, dans l'ordre de la communication, de parler du chat sans que le chat soit présent. Puisque c'est le mot est un substitut de la personne. De la réalité. Grâce au langage, je peux laisser les chats courir. Tandis que s'il n'y avait pas le langage, je serais obligé d'avoir une cage là avec moi, d'arriver avec tout un tas de choses. Chat, chien. Et ça, c'est le langage. Et le langage est le fruit de l'intelligence. C'est parce que l'intelligence connaît d'une façon abstraite qu'elle peut. S'il n'y avait pas la connaissance abstraite, je ne pourrais pas parler. Je ne pourrais pas avoir les mots. Il faut bien, on est au cœur, là, hein, au point de vue critique. La naissance du concept. Et la naissance du concept se fait à travers l'appréhension. Et la naissance du concept, le concept de blanc, le concept être, le concept bien, le concept de tous les concepts, des réalités, relations, quantités, tous les prédicaments sont les concepts, détermination première de la réalité qui est l'homme. Il faut voir cette naissance du concept à travers l'appréhension, qui est une assimilation intentionnelle. Et quand je dis intentionnel, je veux montrer que je saisis la forme qui a sa signification. Et que je demeure dans ce domaine de l'eidos, de la forme intentionnelle. C'est-à-dire d'une forme qui vient de la réalité, mais qui n'existe plus en elle-même, qui n'existe que dans mon intelligence. L'intelligence en connaissant transpose. Il y a une transposition de la réalité. Ce n'est plus la réalité concrète, c'est la réalité abstraite qui connaît. Donc, de la naissance du concept. Et pour expliquer la naissance de ce concept comme le fruit de l'appréhension, je pose l'intellect agent. Pour expliquer le concept. J'ai un concept simple, blanc. J'ai un concept simple, intelligence. J'ai un concept simple, bien. Tous ces mots simples. Tous ces termes simples. Fruit de l'appréhension. Pour l'expliquer, je pose l'intellect agent. sensation liée à l'expérience, à la signification qui me fait entrer dans le domaine propre de l'intelligible, de l'intelligé, du vécu de l'intelligence. Je possède en moi ce concept. Ceci, c'est pas commode à bien comprendre, mais c'est quand même quelque chose de très important. Perdez jamais votre temps quand vous essayez de comprendre ce que c'est que l'intellect d'agent, puisque c'est l'analogue à la découverte de Dieu dans le domaine critique. Donc c'est l'intellect d'agent qui me fait comprendre le comment de ma vie intellectuelle. Et comprendre le comment de ma vie intellectuelle, c'est rendre intelligible toute psychologie. C'est ça qui est intéressant à voir. Vous voyez, c'est là où on pole le psychologue sur son propre terrain. Grâce à la philosophie, je peux avoir la critique. Et grâce à la critique, j'ai le comment de la vie intellectuelle qui me donne l'intelligibilité du comment affectif. Le comment de l'amour ne peut se comprendre que par le comment de la vie d'intelligence. Oui, parce que c'est un comment plus radical. Ma vie spirituelle est d'abord intellectuelle. Elle est ensuite affective. Donc n'opposons pas l'affectivité et l'intelligence. C'est une très grave erreur de faire ça. C'est une très grave erreur, c'est d'avoir pas compris du tout ce que c'est que l'intelligence, d'avoir ramené l'intelligence à la raison. Il n'y a pas de vie affective, spirituelle, sans l'intelligence. Et donc pour comprendre le comment du volontaire, de l'affectivité spirituelle, le volontaire, il faut comprendre le comment de l'intelligence. Et le comment de l'intelligence, dans sa naissance première, c'est le concept. C'est pas la signification du concept, mais c'est le concept, la naissance du concept. Comment naît en moi les concepts? Vous voyez? Et quand on ne peut pas l'expliquer, on dit c'est inné. Je donne ma langue au chat. C'est inné. Le concept est inné. Mais non, le concept n'est pas inné. La preuve, c'est que vous progressez. Alors, c'est tout le dialogue du Menon, Platon, qui dit qu'on a à la naissance tous les concepts. C'est important parce que là, on saisit un point de vue capital de la vie de l'intelligence et de la critique. Bon, une fois que j'ai posé ce problème-là, je vois donc que l'appréhension qu'il y a un mode d'assimilation. Ce mode d'assimilation me permet de concevoir selon un mode universel toutes les déterminations, toutes les quidités de la réalité. Tout ce qui a une signification. Tout ce qui a une signification se rapporte à la détermination de la réalité que je me suis représenté et que j'ai conçu. Alors, le gros problème qui se pose, c'est de comparer ce point de vue de l'appréhension au point de vue du jugement. Je suis parti du jugement pour voir que l'appréhension est l'élément premier de tout jugement. J'ai vu que je ne pouvais pas m'arrêter au jugement. Pourquoi ? Parce que le jugement est à la fois affirmatif et négatif, puisqu'il est les deux, il n'est pas premier. Dès que je découvre une dualité, je sais que ce n'est pas premier. Avant la dualité, il y a l'unité. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle ? Ce n'est pas le jugement, parce que le jugement implique affirmation et négation. On peut tous comprendre ça. Donc il y a quelque chose d'antérieur au jugement. Ce quelque chose d'antérieur au jugement, c'est ce que j'appelle l'appréhension. Et l'appréhension, elle regarde les formes simples. observation simple de la réalité. Donc, elle regarde les quiddités de la réalité. Je prends exprès le terme quiddité, hein, n'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos de la quiddité, le DNA9. Il faut regarder toujours le grec, hein, puisqu'on a l'origine comme ça. La quiddité, c'est
et la quiddité.
dans un autre ordre. Puisque de l'essence sort l'existence. Alors que si de l'existence sort l'essence, le chat existe avant de l'appeler chat. Il peut mourir, le chat demeure dans mon intelligence, l'acuité. Donc, l'appréhension saisit l'acuité. C'est l'aspect élémentaire de ma vie intellectuelle. L'intelligence se nourrit, non pas de l'existence du chat, mais de l'acuité du chat. C'est la signification de la réalité. Et cette signification provient de la réalité. Et c'est l'intelligence qui le met en toute lumière. Donc, c'est pas l'intelligence qui donne la signification au monde. L'intelligence exprime la signification du monde. L'intelligence dit la signification du monde. Mais la signification du monde est dans la réalité du monde, avant l'intelligence humaine. Mais là, on touche la différence entre une position réaliste et une position idéaliste. La position idéaliste, c'est l'intelligence qui donne la signification des choses. La signification du monde. C'est évident qu'avant que l'homme apparaisse sur le monde existait et n'avait de signification qu'en Dieu. Le Mont Blanc n'a pas en lui-même sa propre signification. Mais il existe. Et c'est la première fois qu'on est monté tout en haut du Mont Blanc qu'on a dit le Mont Blanc. Il fallait le dominer. Tant qu'on ne domine pas quelque chose, on ne peut pas le nommer. On ne saisit pas sa quidité. C'est très curieux, ça. C'est comme ça, vous voyez. Pour un animal, c'est la même chose. On va le classer. Un animal inconnu, tant qu'on ne l'a pas tué, qu'on n'a pas regardé ses entrailles, et son cœur, et sa rate, on ne peut pas le nommer. Tandis qu'à partir de là, on peut le nommer. Parce qu'on l'a dominé. En le tuant, on le domine. C'est sûr, ça. C'est la grande manière de dominer. Manière sauvage, mais première. Et ça reste tout le temps comme ça. C'est très, très curieux. Alors, le problème maintenant, quand je saisis l'acuité d'une manière universelle, blanc, comment je vais redécouvrir le jugement? Le jugement, ceci est. Le jugement le plus élémentaire, on est parti de cela. Ceci est. Bon, ceci est implique nom et verbe, grammaticalement. Ici, l'appréhension, l'acuité, j'ai blanc. Blanc, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni ceci, ni est. Comment je passe de blanc à ceci? Mais le problème. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est de la naissance du jugement d'existence. Comment naît le jugement d'existence? Je suis parti du jugement d'existence, je le constate. J'ai vu que le jugement d'existence, affirmatif ou négatif, n'est pas premier, puisqu'il implique quelque chose de complexe. Il est par mode de composition, division, comme dira Aristote. Tout jugement implique composition ou division. Donc s'il implique composition et division, il implique des éléments antérieurs. Qu'est-ce que c'est que ces éléments antérieurs? L'appréhension. Mais ces éléments antérieurs n'expliquent pas directement la composition, ceci est. En termes philosophiques, on dira que le prédicable n'est pas le nom ni le verbe. Le prédicable, c'est blanc. Blanc peut être attribué. C'est les dix prédicaments. Les dix prédicaments sont les prédicables. Le mot l'indique, ça peut être attribué. L'appréhension saisit les dix prédicaments. Si je fais l'inventaire de l'appréhension, j'ai les dix prédicaments. Ah oui, mais les dix prédicaments impliquent un au-dessus des dix prédicaments, substance première. c'est ceci. La substance seconde, c'est homme. Donc, c'est comme blanc. C'est l'acuité. Comment expliquer le passage de la substance première, de la substance seconde à la substance première? Je vous laisse devant ce problème. C'est ce qu'on va voir l'avant-prochaine, ça. Et ça, c'est capital. Alors, c'est là où on voit comment Occam a tout détraqué. Scholem, parce que de Occam à Heidegger, il n'y a pas de changement. Heidegger n'a pas su dépasser Occam. Il est resté devant Occam. Et Occam, c'est le primat de la logique. Et le primat de la logique n'explique pas